Suisse.
Ok, ben ça aussi, ça demande beaucoup de job, j'imagine, c'est ça.
Ça va encore, c'est assez mécanisable.
D'accord.
Pour la première partie. Alors nous, on reçoit les griffes au printemps et on les plante au mois d'avril, selon la météo.
Et ça pousse aussi vite que ça?
Alors après, ça va. Il faut 3 ans pour faire une pleine récolte. C'est des plantes qui durent 10 ans en général. C'est pérenne.
C'est-à-dire que là, on plante une fois une asperge, elle va nous donner des plantes pendant 10 ans.
Voilà, on plante la première année, elle va pousser, elle vient jusqu'à 1 mètre 50 de haut. L'automne, elle va, il y a divers entretiens à faire sur la saison. Ouais. Expliquer peut-être plus tard.
Ouais. Et puis
après, elle est broyée à l'automne. On broie les feuilles, ça reste sur le sol.
Ouais, on le recycle.
C'est la matière organique. La deuxième année, elle repousse au printemps. Là, on fait une toute petite cueillette pour juste. Ça la stimule aussi un petit peu.
Ça lui fait du bien à la
plante. Ça fait un petit peu un coup de fouet, comme on dit.
Ouais.
Et après, à nouveau, les entretiens toute la saison, quoi, voilà. L'irrigation, protection contre les maladies, les insectes, désherbage. Qui prend beaucoup de temps.
Ah oui, ça je le crois. Et la troisième année?
La troisième année, ben, on est nouveau là. On n'est encore pas en grosse phase de production, mais ça, on augmente déjà. Et puis, si tout va bien, ben, on a bien travaillé les 2 années avant, ben, on peut tirer un peu plus sur la plante. Et puis, à partir de la quatrième, c'est bon, quoi. On peut lancer la production.
Ok, donc en fait, déjà rien que dans l'intervalle de temps nécessaire entre le moment où on plante la première griffe et on récolte, il y a déjà un monstre job pour une asperge, quoi, finalement.
Voilà, oui, il y a beaucoup d'investissements au début, puis le terrain, il est condamné à faire que l'asperge, entre guillemets, en produit. Première année, ben, on plante, il n'y a que des frais.
Parce qu'on ne peut pas toucher ce terrain-là, parce que sinon, logiquement, on détruit des asperges.
Voilà, ouais.
Et là, à partir de la quatrième année, donc moi, je pensais que ça allait pousser hyper vite, mais non, on va les planter au plein temps, mais on va les récupérer 3 ans plus tard, donc non, hyper vite, non. Et là, à partir de la quatrième année, par contre, le terrain va rester que pour les asperges, jusqu'à la cinquième, sixième, septième, huitième, tout ça. Et là, par contre, on va avoir des quantités qui seront belles.
Après, voilà, ça produit. Après, c'est la météo qui commande, c'est tout la même chose. On arrive cette année, ben, on a eu l'été dimanche, oui. Puis il annonce 5, 6 degrés. Cette fin de semaine, alors là, les asperges, elles n'aiment pas du tout le froid.
Ah ah! Alors, c'est le premier légume du printemps, forcément, il aime pas trop ça. Et justement, comment. Bon, voilà, là, on est tributaire. Qu'est-ce qu'il faudrait comme temps idéalement pour les asperges?
Voilà, 20 degrés la journée, il y a 18, voilà, 18-20 degrés. Ça serait un printemps normal, quoi.
Oui, qui pleuve une fois de temps en temps, le reste du soleil. Et puis, parce que, une fois, on m'avait dit, pour un paysan ou une paysanne, le mauvais temps, c'est le même temps trop longtemps. C'est pareil pour les asperges?
C'est la même chose.
Ah, d'accord. Bon, ok, maintenant, on est arrivé à la fin de la quatrième année. On a le champ qui est rempli d'asperges, il est magnifique. Faut les ramasser.
Voilà, alors c'est le personnel qui doit être là. Alors là, je remercie aussi notre personnel. Ben, on a beaucoup de. Ben, c'est des Polonais et des Ukrainiens.
D'accord.
Sans qui, ben, rien ne se ferait.
Sans qui, on n'aurait pas d'asperges, voilà, et du charlet dans nos assiettes.
Voilà, et on n'a pas d'autre personnel que. C'est vraiment difficile. Je remercie aussi toutes nos vendeuses qui sont à l'accueil, qui préparent les commandes au magasin, sans qui non plus rien ne se ferait.
Ouais.
Alors voilà. Et ensuite, la clientèle aussi qui joue bien le jeu. On est content dans le Chablais d'avoir des clients qui jouent entre les restaurants, les clients privés, des revendeurs, des petits magasins locaux.
Et puis, on a de quoi être content vu le job qu'il faut pour avoir une asperge. On peut dire merci ou bien. Et justement, le fait de les ramasser, qu'est-ce qui a fait fuir ce monsieur dont vous parliez tout à l'heure, qui a dit non, mais moi je suis venu une fois, c'est bon, ça va.
Alors on est courbé toute la journée.
Ça se ramasse à la main?
Puis à la main, avec une gouge, et puis il faut vraiment. On la voit pas, on doit couper à 30 cm dans le sol. Alors il faut quand même un peu de vise et puis de dextérité. C'est pas simple, voilà.
Il faut planter un outil de travail finalement 30 cm dans le sol.
Voilà, une gouge. D'où d'avoir du sable, quoi, des terres sablonneuses du Rhône.
Ah ouais, là, du coup, on a bien envie que le terrain soit un peu plus meuble,
voilà.
Histoire que la gouge puisse rentrer jusqu'à l'asperge et puis qu'on puisse la retirer et plier en pliant en deux toute la journée.
Voilà.
Ouais, alors franchement, la prochaine fois que je mangerai une asperge du Chablais, je vais y penser à tout ça. Parce qu'en plus, elle se mange tellement rapidement. C'est pas un peu triste, ça?
Oui, moi je travaille derrière, puis elles sont là, conditionnées à la ferme, la veille. Alors elles sont manipulées plusieurs fois. C'est du travail, c'est assez conséquent.
Et tout ça alors que une asperge, le plat en règle générale, il vole en 2 minutes.
Voilà.
C'est mon Dieu.
C'est tellement bon et plein de vitamines.
Effectivement, il faut manger des asperges. Et puis si elles sont du Chablais, c'est encore mieux. Franchement, sérieux, moi je suis halluciné devant autant de jobs et autant d'informations que j'ai apprises aujourd'hui en fait. Donc franchement, merci du fond du cœur, Pascal Lathion. Je rappelle que vous êtes exploitant agricole et que vous plantez et semez, et mon Dieu, et soignez ô combien les asperges du Chablais dans votre exploitation agricole à Murat. Merci infiniment d'être venu répondre à la question. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci à vous, merci aux auditeurs.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Par ici la visite sur Radio Chablais.
Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens sur la montagne, là-haut, il fait si bon. Chantait Marie Laforêt il y a 60 ans. Christian Chulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien. Après le Gramont, les Diablerets et les Dents du Midi le week-end dernier, nous nous trouvons à nouveau en terre vaudoise pour évoquer un dernier sommet magnifique de la région.
La chaîne montagneuse face à laquelle nous nous trouvons est décrite en 1848, mais c'est toujours valable de nos jours, comme une arête longue, massif et hérissée de dents, parmi lesquelles on remarque, en allant de la Dent de Morcle au Diablerets, celle de la Tête Noire, de la Pointe Favre, aussi appelée Dent Favre, du Grand et du Petit Muvran. Le Grand Muvran, géant solitaire, porte sur ses lourdes épaules 2 glaciers. Au midi, celui de Plan-Névé, au nord, celui de Panéros. Et cette arête, elle délimite les cantons de Vaud et du Valais.
Continuons donc, Christian Chulet, par le plus majestueux de ces sommets.
À tout seigneur, tout honneur, commençons par le Colosse, celui qui est désigné comme l'un des géants de la chaîne des Alpes vaudoises, le majestueux Grand Muvran, aussi appelé anciennement Mauvran ou Moévran, un Grand Muvran qui culmine à 3061 mètres d'altitude et qui est constitué par 3 arêtes qui se rencontrent au point culminant. Parmi les évocations dont il fut l'objet figure celle de l'écrivain et professeur de littérature française Eugène Rambert, dont le nom est par ailleurs gravé en hommage dans le rocher à Pont-de-Nant. Eugène Rambert qui publia en 1871 un ouvrage intitulé « B et ses environs, guide et souvenirs ». La description qui suit en est tirée. Le Muvran, qui se dresse de toute sa hauteur au-dessus du vallon des Plans et le domine de 2000 mètres, n'a que de petits glaciers cachés dans les replis de ses flancs. Vu de la vallée, il ne présente qu'un immense massif de rochers. Ce n'en est pas moins une de ces montagnes auxquelles on s'affectionne. La façon dont il dresse sa tête chauve n'est pas d'une cime vulgaire. Il la porte haute et fière, mais sans morgue ni ostentation. Le profil en est pur autant que sauvage. Et il y a dans cette masse décharnée, je le sais, quelle noblesse native, quelle grâce hardie qui attire et retient.
Poète.
Ce n'est pas beau, effectivement. Oui.
Christian Chulet, la montagne attire aussi les amoureux de la pratique sportive.
Oui, le goût et la pratique de l'alpinisme se développent dans la seconde moitié du 19e siècle et le massif attire les touristes. L'arrivée du chemin de fer à Baie en 1857 facilite par ailleurs l'accès au vallon des Plans et aux montagnes environnantes. Dans ce contexte est envisagée la construction d'une cabane dans le massif des Muvrans. À l'initiative des guides des Plans et de Grillon, la section des Diablerets du Club Alpin Suisse décide en 1894 d'y établir une cabane qui rendrait de très grands services pour toutes les excursions dans le massif du Muvran. La cabane en bois est construite par un charpentier lausannois et elle est acheminée, démontée par chemin de fer jusqu'à la gare la plus proche, qui est celle de Ride, puisqu'en effet, elle sera montée par le versant valaisan. Des guides de Frenière et de Grillon ainsi que des vignerons de Létron transportent ces matériaux jusqu'à la frette de Saille, l'emplacement qui a été choisi pour l'érection de ce petit hôtel de montagne et qui se situe entre le Grand et le Petit Muvran.
Une fois que la cabane est construite, on l'inaugure ?
Exactement, Pierre. Cette cabane de 21 places est inaugurée le 20 juillet 1895. Et elle est baptisée tout naturellement Cabane Eugène Rambert au Muvran. En effet, Eugène Rambert, qui était décédé 9 ans plus tôt, véritable écrivain alpin, fut en effet, en outre, parmi les membres fondateurs du Club Alpin Suisse. Donc il était vraiment tout désigné pour donner son nom à cette cabane. Celle-ci est située à 1 heure de marche du sommet du Petit Muvran, qui lui atteint 2820 mètres, et qui est décrit comme une pyramide rocheuse à laquelle on accède par le versant valaisan, un versant revêtu d'une verdure qui lui a parfois valu le nom de Verdant. Et cette cabane, elle est agrandie par une annexe en 1910, puis transformée en 1920, avant d'être démolie en 1953, suite à la construction d'une nouvelle cabane à un emplacement plus favorable.
Mais retour en 1900, Christian Chulet.
Le massif des Murans fait partie du décor somptueux que découvrent cette année-là les invités qui prennent place à bord du convoi d'inauguration du chemin de fer de Baie à Grillon. Le Muvran donne son nom à plusieurs hôtels et rues jusqu'à Lausanne et même jusqu'à Échandon. Et il est représenté par de nombreux artistes, dont le peintre chablaisien Frédéric Rouge et l'illustre Ferdinand Audelaire, qui séjourne à Chezières en 1912 et peint à cette occasion le Grand Muvran. Eugène Rambert, pour revenir à lui, écrivait que le Grand Muvran avait été orienté par la nature pour resplendir à la tombée du jour. Aucune montagne en Suisse ne s'illumine plus entièrement aux rayons du soleil. Ce n'est pas de la pierre, c'est de la braise. Une montagne incandescente, écrit-il encore. Et c'est sur cette note lumineuse et chaleureuse que prend fin cette série hivernale consacrée à quatre montagnes emblématiques de notre région.
Christian Chulet, merci beaucoup. Nous nous retrouverons, quant à nous, l'été prochain pour de nouvelles histoires liées à la région. À bientôt.
C'était un plaisir, à bientôt.
Et dès la semaine prochaine et à l'occasion des 40 ans de Radio Chablais, nous découvrirons tout au long de 2024 la région sous toutes ses facettes. Et l'Association du Chablais est notre première invitée, donc rendez-vous la semaine prochaine.
Par ici la visite.
Bonne nuit sur Radio Chablais. Quatrième de couverture, la chronique littéraire sur Radio Chablais.
La Maison des Jouets est le titre d'un roman paru chez Bernard Campiche, éditeur. Son auteur est avec nous, Carlos Enriquez, bonjour.
Bonjour.
Homme de théâtre, improvisateur et humoriste, vous étiez membre du trio des Putsch, lequel a mis fin à sa carrière en 2022. Vous avez entamé une carrière solo, aujourd'hui metteur en scène, chroniqueur radio, auteur dramatique, auteur de livres pour enfants. Sur la quatrième page de couverture de votre premier roman, on peut lire... Alors que son couple bat de l'aile, Hugo Ballast se rend seul dans la maison de vacances. Pourtant, Carlos Enriquez, il était censé s'y rendre avec sa famille, mais que s'est-il passé ?
Oh ben, vous savez, la vie réserve des fois des surprises. Alors, il s'est séparé de sa femme, sa femme s'est séparée de lui, tiens. Et il se retrouve dans une atmosphère insupportable à la maison. Pour ceux qui l'ont vécu, il y a le moment où on habite encore ensemble, mais on n'est plus ensemble, donc... Il se parle plus et il a envie de prendre le large. Donc, comme ils avaient réservé une maison de vacances avec sa femme et ses enfants, ben il se dit, ben je vais y aller tout seul, tiens. Et puis il se retrouve dans cette maison de vacances où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de communication avec l'extérieur, et il est obligé de vivre un peu une introspection en se posant des questions sur lui. Puis comme c'est quelque chose qu'il aime pas trop faire, ben il préfère fouiller un peu dans toute la maison. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une maison de vacances louée chez l'habitant, mais on est souvent tenté d'ouvrir les tiroirs, d'ouvrir les armoires, de regarder les livres. Et c'est ce qu'il fait et qu'il se retrouve tout à coup mêlé dans une histoire qui le dépasse complètement, qui devient une histoire policière quasiment à la longue.
Cette maison de vacances se trouve dans un tout petit village où tout se sait. Et d'ailleurs, il va s'en rendre compte assez rapidement parce qu'il fait connaissance avec l'épicière du coin, Mylène.
Qui est un peu la pipelette du village. Finalement, c'est elle qui lui donne quelques clés du mystère, mais sans le savoir, parce qu'elle ne sait pas à qui elle a affaire. Hugo Ballast, donc le rôle principal, le personnage principal, il se définit lui-même comme étant un fouille-merde, c'est-à-dire une sorte de paparazzi freelance qui cherche des scoops toute sa vie. Et du coup, quand on lui donne un os à ronger, il fonce dessus à belles dents. Donc, dès que Mylène lui parle un peu du passé du village, ça l'intéresse. Et du coup, ça l'encourage à fouiller. Et puis, ben voilà, c'est un peu à cause d'elle qu'il se retrouve en mauvaise posture. Mais je vous rassure, ça finit quand même pas trop mal pour les personnages principaux. Puis surtout, j'espère qu'on rigole en lisant mon livre, parce que c'était un peu le... Le défi que je m'étais posé, c'est écrire un roman pendant lequel on peut aussi rire, puisque je suis quand même humoriste à la base, et c'est quelque chose qui me définit, je trouve.
Il y a certes Mylène l'épicière, Carlos Enriquez, mais il y a encore un autre personnage qui croise la route d'Hugo Ballast, c'est un vieil SDF qui lui aussi a quelques souvenirs de son passé et du passé du village.
Oui, c'est ça, c'est Jean-Jacques qui est un vieux SDF dans un village, ce qui est quand même assez rare. Et il se débrouille avec ce que les gens lui laissent comme miettes. C'est un monsieur qui a connu la guerre en en étant très très jeune. Il avait à peu près 17 ans quand il est entré dans la résistance et ça l'a grillé. Ce qui fait que après ça, il n'a jamais pu vraiment devenir une personnalité notable dans le village. Donc il est resté très très marginal. Et là, c'est un vieux, au moment où commence l'histoire, c'est un vieux SDF qui de temps en temps trouve refuge quelque part, mais la plupart du temps, il dort dehors, enfin, il dort là où il peut trouver un abri. Et puis, c'est lui qui va guider beaucoup notre héros dans sa quête de vérité et de fouiller le passé, on va dire.
Et il a été dit, dans ce village tout petit, tout se sait. Et donc, comme il déterre quelques éléments qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde, il va se mettre en danger, Hugo.
Oui, il va lui arriver des bricoles. Je ne veux pas trop les raconter parce qu'elles me font marrer. J'ai essayé de trouver des sanctions qui pouvaient être plutôt marrantes à lire. J'aimerais pas les vivre, mais voilà. Et puis tout à coup, on l'immobilise. Et puis, il doit entrer dans une sorte d'acceptation qu'on s'occupe de lui aussi. Parce qu'il y a des méchants hein, qui le tabassent, mettons. Et il y a des gentils qui l'aident. Et puis, il doit accepter qu'on soit gentil avec lui, alors que lui... dans sa vie, il n'a pas souvent été gentil avec des gens.
Oscillant entre roman policier, vous l'avez dit, roman historique et saga familiale, c'est La Maison des Jouets. Carlos Enriquez, votre premier roman, vous y avez pris goût ?
Moi, j'ai adoré, oui, j'attends qu'une chose, c'est me mettre au suivant. Même si pendant l'écriture, j'ai déjà pris quelques notes pour faire autre chose, un autre livre. Mais non, j'ai adoré ça, c'est vraiment un exercice qui m'a passionné. Je vous rassure, je continue à écrire des pièces de théâtre quand même. Mais, et je continue à jouer aussi, ce qui ne gâche rien. Et ça me donne une corde de plus à mon arc, et qui en a déjà pas mal, mais vraiment un grand plaisir à l'écrire.
Un roman paru chez Bernard Campiche, éditeur, La Maison des Jouets. Campiche.ch pour plus de renseignements, ou votre site à vous, carlos.li. Carlos Enriquez, merci beaucoup d'avoir été un instant avec nous.
Mais merci à vous, et puis j'espère qu'on se rencontrera par la lecture avec vos auditeurs.
Quatrième de couverture.
Très bon livre d'ailleurs que j'ai lu de Carlos Enriquez, qui est écrivain et humoriste notamment. D'ailleurs, on reste dans l'humour hein, puisque ce matin on est en 1988 et qu'on regarde pendant cette deuxième heure les films et les comédies qui sont sortis. Eh bien, 1988, c'est la sortie de Un poisson nommé Vanda, un film dans le style des Monty Python avec notamment Jamie Lee Curtis. Alors, on est dans une comédie un peu loufoque hein, mais qui fait du bien. Alors, si vous ne l'avez pas vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, surtout qu'il fait pas très beau ce week-end.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
C'est chaud. Sur le grill.
Helios 7e édition revient cet été. Helios, c'est de l'art monumental en extérieur, mais elle va nous l'expliquer beaucoup mieux que ça. Marie-Hélène Heusgen, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie avec Jean-François Gaillou des curateurs et médiateurs artistiques de cette exposition. Déjà, juste nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'Helios.
Alors, Helios, c'est une exposition d'art, de sculpture en plein air, répartie sur Aigle, Ivorne, Col des Mosses, Les Ains, Diableret et Pays d'en Haut, c'est-à-dire Rossinières, Rougemont et Châteaudet.
Ah, parce que Helios s'est élargi, maintenant c'est un projet presque complètement global aux Alpes vaudoises et qui permet à tout à chacun et tout à chacune de se balader.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de permettre au public de nouveau de pouvoir faire une visite sur son rythme, le jour, la nuit, au moment qu'il veut. Les œuvres sont toutes accessibles en tout temps. Et puis de passer depuis, je dirais, la ville jusqu'à la moyenne montagne et en altitude, au Cuclos à 2000 mètres ou au lac Liozon, en fonction des choix et des parcours pédestres souhaités par le visiteur.
Et toujours dans des lieux d'exception ou même des fois des lieux qu'on connaît moins et qu'on est amené à découvrir.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a des lieux comme le lac Mayen, des endroits un petit peu plus isolés qui demandent un petit peu de marche, mais on peut quand même rejoindre les lieux avec le télésiège ou le téléphérique en fonction. Mais c'est vrai qu'il faut parfois un petit peu s'investir pour trouver le lieu où se trouve la pièce. C'est aussi un parcours de découverte et un parcours où l'on découvre l'œuvre dans le milieu naturel avec une mise en scène et une scénographie que l'on essaye toujours à propos par rapport au travail artistique.
Des œuvres qui ont marqué hein, déjà l'histoire d'Helios, qui sont même parfois restées sur site, parce que tout à coup les gens se disaient, on dirait qu'elle était faite pour être là, et qu'elle sera pour toujours ici, on espère.
Oui, alors vous pouvez par exemple retrouver une pièce de Raoul Tonnet au Kuklos qui est ravi d'avoir sa pièce cinétique qui bouge à chaque fois que le vent souffle, et Dieu sait qu'au Kuklos, le vent peut souffler très fort.
Maintenant, cette année de 2024, Hélios, nouvelle édition, ça commencera cet été à nouveau. On a déjà un petit peu les dates ?
Oui, alors 1er juillet, on devrait être prêt à vous accueillir pour une belle visite jusqu'à fin octobre, fonction de la neige en altitude, mais généralement de juillet à octobre.
Quelle sera la thématique cette année ?
Alors la thématique cette année, elle s'est voulue être interpellante et ouvrir le dialogue, c'est-à-dire qu'au lieu de trouver juste un mot, c'est une terminologie et on parle du 60e jour. Alors le 60e jour, il ne parle pas à tout le monde, mais en fait, dans votre calendrier, tous les 4 ans, un jour supplémentaire vient se glisser, il s'agit du 29 février. Parfois, les gens ne font pas attention, mais nous passons en année bissextile à 366 jours au lieu de 365 pour récupérer des décalages liés au système solaire qui fait qu'on a à peu près 6 heures de plus chaque année et que tous les 4 ans, on rectifie en rajoutant un jour pour retomber sur un calendrier juste. Cette date est intéressante parce qu'elle interpelle sur le côté exceptionnel, un 60e jour qui vient se glisser dans le calendrier. Et puis, il interpelle et il parle surtout à toutes les personnes qui sont nées un 29 février. Quand on est né un 29 février, on a un anniversaire tous les 4 ans. Et moi, quand j'étais enfant, ma grand-mère était née un 29 février, elle aurait 120 ans cette année. Et quand j'étais petite fille, elle me disait toujours, c'est pour ça que je suis jeune, c'est parce que je ne fête mon anniversaire que tous les 4 ans. Alors c'est aussi un clin d'œil à tous les gens qui ont ce jour anniversaire et qui, lorsqu'on est enfant, on a du mal à comprendre que son jour n'existe pas dans le calendrier, sauf tous les 4 ans.
On reparle d'Hélios d'ici quelques tout petits instants. Les infos, c'est sur Hélios, Hélios.com.
Sur le grill.
Radio Chablais, programme de nuit.
Sur le grill.
Et nous, on continue à se balader dans le monde merveilleux, artistiquement parlant en tout cas, et surtout au niveau régional, d'Hélios. Comment les artistes vivent ce côté justement d'être au cœur des montagnes, des villes, mais au pied des montagnes, dans une nature à laquelle ils peuvent répondre ou faire répondre la nature même à leur œuvre d'art ?
Alors en fait, les artistes sont toujours très contents de pouvoir participer à ce genre d'expérience parce que quand on est artiste et que l'on crée des œuvres monumentales, le problème, c'est souvent de pouvoir les présenter. Parce qu'une fois qu'elles sont créées dans l'atelier, généralement déjà, éventuellement, ils ont dû sortir de l'atelier parce qu'elles ne tenaient pas dans l'atelier, parce que la créativité peut parfois avoir des effets grandissants avec la volonté et l'esprit de ces artistes. Puis l'autre chose, c'est qu'ensuite, elles prennent un tout autre sens parce que l'espace qui est mis à disposition permet de donner une autre dimension à l'œuvre, une autre lecture, et ça leur permet, grâce à la médiation culturelle que nous faisons à côté de chaque œuvre, avec un texte écrit par les artistes, traduit en 3 langues de façon à ce que tous les visiteurs puissent comprendre le message, ça permet d'accompagner l'œuvre d'une explication, et ça ouvre aussi tout le discours et le dialogue entre des familles qui pourraient faire la visite et qui vont pouvoir trouver un sujet de conversation autour de l'œuvre.
C'est essentiel ce que vous dites là, parce que justement ce projet se veut aussi initié à la base par des communes touristiques, donc ça doit pouvoir répondre aussi à une attente, une compréhension qui elle n'est pas nécessairement artistique à la base.
Oui, tout à fait. Les stations et les communes ont toutes besoin de visiteurs, de gens, de leur proposer un programme varié durant les périodes de vacances, mais aussi en dehors des périodes de vacances. Le fait d'avoir une exposition de ce type, avec une médiation culturelle trilingue, ça permet d'offrir vraiment une médiation complète, toutes tranches d'âge confondues. Vous allez avec des scolaires, vous pouvez ouvrir le dialogue en disant « Mais comment tu appellerais cette œuvre ?» Parce que c'est vrai que parfois le titre donné par un artiste n'est pas très parlant pour un enfant de 6 à 12 ans. Donc c'est déjà lui demander qu'est-ce qu'il ressent et comment il appellerait l'œuvre. Ça, c'est déjà une première porte d'entrée. On peut aussi aller faire du croquis. Et là, on peut avoir tout niveau artistique. Ça peut être des adultes confirmés qui vont vouloir faire des croquis au pastel ou autre d'une œuvre in situ. Ça peut être aussi de parler des matériaux, des outils utilisés. Enfin, c'est un outil extrêmement vaste pour sortir des applications de téléphone portable et ouvrir le dialogue et construire des phrases et échanger sur des sujets beaucoup plus riches et d'enrichir son vocabulaire, ses connaissances, de parler d'art, de parler de culture, de créativité. Ça permet aussi de créer des opportunités pour des jeunes, de peut-être trouver une voie professionnelle en se disant, mais oui, moi, le bois, ça me parle et j'aimerais bien, une fois que j'ai fini ma formation, peut-être partir dans de la créativité.
On va beaucoup plus loin que justement le concept artistique. Dernière chose, donc 60e jour, c'est cette année la thématique de cette 7e édition d'Hélios. On en est où actuellement ?
Évidemment encore en recherche d'artistes, on a beaucoup de dossiers ouverts, on a beaucoup de choses, on voit beaucoup d'artistes, on visite beaucoup d'ateliers actuellement, il y a des artistes qui proposent plusieurs pièces, donc il ne faut pas hésiter à nous écrire sur notre site web www.helios.com. Où là vous avez une zone de demande, vous pouvez nous écrire un message et puis vous mettez bien vos coordonnées et puis on vous recontacte, on vient volontiers visiter votre atelier. Vous pouvez aussi nous envoyer directement des dossiers avec des croquis, une description de l'œuvre, tout est possible, en tout cas nous sommes toujours joignables.
Et donc Hélios, 7e édition, le 60e jour, c'est cet été, dès début juillet. On se réjouit déjà d'y être et puis on se retiendra au courant d'ici là de l'évolution du projet.
Tout à fait. À vos plaisirs de vous tenir informés. Et n'hésitez pas à aller sur le site web.
Helios.com. Merci beaucoup. C'est chaud.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. On a pris de la hauteur. On entend les oiseaux. On entend les poules glousser aussi. On se trouve à mon guide, c'est Gérard Carreau. Gérard, pour cette première capsule, je voulais que qu'on vienne, on se balade dans ce petit village. Fais-moi découvrir un petit peu ce village de Mie, il est tout petit.
Oui, c'est un village, bon, à l'époque, il y avait même pas 100 habitants. Maintenant, il y a plus de 300, mais avec tout le... Voilà, ça s'est entouré de chalets qui étaient des chalets de vacances, qui sont devenus des chalets d'habitation. Maintenant, je crois qu'il y a plus de 360 habitants.
Oh mon Dieu, c'est une mégapole.
Oui.
Alors, Mie, c'est en dessus de Vouvry, on va dire que c'est entre Vouvry et Tannay, en fait.
Voilà, c'est entre Vouvry et Tannay, c'est à 1000 mètres. On est vite à Tannay, on est vite à la plaine. C'est pour ça que c'est le nombril du monde, parce qu'on va partout et en peu de temps. Et ici, quand on monte, on est en vacances.
Alors ça, c'est vrai. J'ai vraiment l'impression d'être en vacances. Il n'y a pas un bruit, on se balade dans des petites ruelles. Elles sont toutes étroites. C'est quoi? C'est 3 mètres de largeur, la ruelle, là?
Oui.
C'est tout petit.
On passe pas.
C'est ça. On a l'impression d'être suspendu quelque part dans le temps, quelque part dans le passé. Et en même temps, on est là où on est. On a la vue ici, elle est magnifique.
Mais oui, regarde en face les Alpes Vaudoises. On a le Grand Combin. Non, mais c'est magnifique. Regarde ce soleil aujourd'hui.
En plus, c'est vrai, aujourd'hui, il fait 20 degrés. On est à 1000 mètres. Il fait une température idéale. C'est vrai qu'il y a comme un truc de vacances. Est-ce que justement, il y a toujours des gens qui viennent rien que pour les vacances ou pas?
Oui, mais eux, ils payent, tandis que pas nous.
Une nouvelle découverte à faire toute cette semaine dans le nombril du monde à 8h30.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais.
Et il est question de bonheur, soit, mais aussi d'un prix Nobel.
Un prix Nobel qui s'invite.
Voilà, alors on parle de Daniel Kahneman, prix Nobel en 2002, pas en psychologie, ça n'existe pas, mais en économie comportementale. Lui, il s'intéressait en fait à notre réflexion, à notre façon d'être plus ou moins rationnel dans nos décisions. Et à ce niveau-là, il s'est intéressé au bonheur avec une découverte quand même extraordinaire qui a mis beaucoup d'ordre dans le champ de recherche, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait parfois des résultats contradictoires qui apparaissaient. Et Daniel Kahneman a réussi à mettre de la lumière en montrant qu'il y a deux dimensions totalement différentes et même parfois totalement disjointes au bonheur. Il y a le bonheur qu'on éprouve, autrement dit dans l'instant présent, je peux le vivre avec plus ou moins d'émotions agréables, et puis je me dis à moi-même à ce moment-là, ah tiens, c'est un bon moment, je suis heureux, etc. Mais il y a aussi l'évaluation que l'on fait. Dans les questionnaires, c'est plutôt tout bien considéré, jusqu'à quel point êtes-vous heureux ou satisfait de votre vie. Et là, ça n'a rien à voir avec le moment présent, ça a à voir avec l'ensemble de nos souvenirs. Et donc, Daniel Kahneman a réussi à distinguer ces deux éléments. Il y a le bonheur que l'on expérimente, que l'on vit, que l'on éprouve, et puis il y a le bonheur que l'on évalue. On se dit plus ou moins heureux.
Quantifiable.
C'est quantifiable. Et surtout, la subtilité, c'est qu'on peut très bien se dire heureux, malgré le fait que dans l'instant présent, dans les instants présents mis bout à bout, on n'a pas tellement vécu de moments agréables. Ça, c'est la magie des souvenirs. Je vous donne un exemple vraiment bien connu. L'accouchement, c'est habituellement un moment plutôt douloureux pour les
femmes.
Qu'est-ce
que vous en savez?
En tout cas, pour en avoir été témoin, ce n'était pas forcément les meilleurs souvenirs que je garde de plaisir, on va dire. Hein. D'un autre côté, ce n'est pas rare du tout d'entendre des mamans, après coup, dire que c'était un bon moment. Je ne pense pas qu'elles nous mentent quand elles disent ça, mais leur mémoire a réussi à retravailler l'événement, ce qui fait que même si sur le moment ce n'était pas agréable, c'est quand même enregistré comme un bon souvenir, et donc la personne peut se dire heureuse avec ces souvenirs-là.
On retravaille nos souvenirs comme ça, encore et toujours.
De toute façon, ils se retravaillent d'eux-mêmes, mais là, on peut apprendre nous-mêmes à faire ce travail sur les souvenirs de façon à ce qu'ils contribuent, à ce qu'au final, on puisse se dire, tiens, j'ai une belle vie, j'ai eu une belle vie.
Donc, le bonheur,
c'est se rappeler des bons moments.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chab, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Yeah.
Le geste du jour.
Manque un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste!
Sur Radio Chablais.
Un geste du jour pour être plus heureux, pour notre bonheur. Yves-Alexandre Talman nous parle d'une professeure d'une université californienne qui nous propose la reconnaissance et la gratitude.
Alors, Sonia Lyubomirski, elle a aussi beaucoup, elle est professeure à l'université de Californie, si mon souvenir est exact. Elle a beaucoup travaillé sur la psychologie positive et c'est notamment elle qui a permis de mettre en évidence que la gratitude, l'esprit de reconnaissance, la reconnaissance, c'est un élément, un moteur du bonheur.
Tellement vrai, c'est juste.
C'est notamment elle qui a étudié et qui propose ce petit exercice qui consiste à deux fois par semaine, par exemple le soir avant de s'endormir, de prendre un petit calepin et de noter trois éléments pour lesquels on aimerait exprimer de la reconnaissance, que ce soit envers quelqu'un, que ce soit envers Dieu, l'univers, la vie, peu importe, mais porter son attention sur des éléments positifs de la vie plutôt que nos soucis ou bien d'autres choses qui vont pas.
Et vous le faites, vous ?
Alors moi, je le fais effectivement, pas de façon si formelle que le noter, mais je le fais de façon un petit peu plus régulière avec ce qu'on appelle les comparaisons descendantes. C'est-à-dire que, peu importe ce qu'on vit, on peut toujours avoir en conscience l'idée que ça pourrait être drôlement pire. C'est de la pensée positive, paradoxalement.
Ouais,
mais effectivement, il fait froid. Ouais, bon, mais dans d'autres pays, il fait froid, mais 6 mois par année. D'accord. Ah, mais il pleut. Oui, mais dans d'autres pays, il pleut jamais. Et puis, c'est la sécheresse. Et quand on voit les choses comme ça, on voit bien que ça relativise. Puis on se dit, ah, mais quelle chance j'ai de vivre dans ce pays, dans cette vie, etc., dans cette famille. Et en fait, c'est ça l'esprit de reconnaissance et de gratitude.
En condensé, le bonheur.
Le bonheur se trouve dans l'esprit de gratitude.
Le geste du jour.
Donc un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste !
Sur Radio Chablais. Radio Chablais, programme de nuit.
En large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
André Cavellius, bonjour.
Bonjour.
On s'est donné rendez-vous par évidence à l'espace Contre-Contre à Saint-Maurice. L'exposition est en cours avec ces vernissages communs à Saint-Maurice. C'est intéressant, ça a eu lieu il y a quelques temps. Une exposition à fleur de peau que vous menez avec une complice. Vous êtes vous-même artiste un peu polygenre. On va en parler tout à l'heure.
C'est joli,
ouais,
ça.
Polygenre, polymorphe. Couteau suisse, j'ai dit avant.
Ouais, c'est pas mal aussi, couteau suisse.
Vous faites de l'art de scène, vous faites de l'art plastique, vous faites de la photo, vous faites toutes sortes de choses. Et puis, vous êtes avec Katia Zagoritis, qui elle est une céramiste, et vous exposez ensemble dans cet espace Contre-Contre. Je vais vous demander d'en parler un petit peu de cet espace que vous découvrez, que vous connaissiez déjà. Qu'est-ce qui vous. Comment il vous parle ?
Alors moi je connaissais très très mal Saint-Maurice, j'avais un peu travaillé dans le Valais, à Bé, à Maze, je connaissais évidemment Saint-Maurice, je connaissais l'abbaye, etc. Et j'avais vu des photos de l'espace Contre-Contre, donc je connaissais très très mal. Et c'est vrai que la première fois qu'on arrive ici, c'est un peu comme une chapelle, cet espace. Il a des poutres apparentes, il y a des grands murs, c'est très haut de plafond, c'est très spacieux, on peut faire des choses incroyables. Et puis il y a deux espaces en fait côte à côte, quoi. Donc c'est vrai que la première vision qu'on a eue quand on est arrivé avec Katia de voir ce lieu, c'était waouh, c'est super, on peut faire beaucoup de choses.
Le lieu, c'est quoi? Premier coup d'œil, quand on entre dans un endroit d'exposition comme ça, on a tout de suite je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir mettre trois photos les unes sur les autres plutôt que deux.
Alors je sais pas comment tous les cerveaux fonctionnent, en tout cas le mien c'est comment est structuré le lieu,
l'espace.
Voilà, comment c'est vraiment de l'espace,
me mettre dans cet espace-là.
Voilà. Et puis là en l'occurrence on a de la chance en fait, parce que le lieu il impose des choses, il impose une structure. Et là on a un grand mur, par exemple, les gens qui connaissent ou les gens qui connaissent pas et qui vont venir ou qui sont venus, ils constatent que quand on rentre, il y a un grand mur à gauche qui fait un peu plus de 6 mètres de haut, qui fait presque 7 mètres sur 14 mètres d'ouverture. Et il est structuré par poutres. Donc vertical, ouais, et horizontal. Donc on n'a pas le choix. Je veux dire, il faut utiliser ça. Mmh. Et si on prend l'espace contre nous, on va pas réussir. Par contre, si on s'amuse avec l'espace, et là vraiment, enfin moi en plus j'ai vécu à Strasbourg, il y a beaucoup de poutres apparentes. J'adore les vieilles pierres, j'adore les poutres. Alors c'est pas des poutres en bois, mais c'est des poutres en béton. Ça change pas grand chose. Et là tout de suite, moi je me dis oui, comment est-ce qu'on utilise cet espace en fait? Il faut l'utiliser pour que l'espace soit beau et que du coup le projet soit aussi beau et fort.
Bon, vous l'utilisez avec vos œuvres, hein, dans cet espace grand, hein, que vous venez de décrire. Celle de Katia Zagoritis autour des vôtres, et puis dans un espace particulier, on en parlera tout à l'heure, avec un thème très particulier pour elle. Comment on fait une collaboration d'artistes? C'est une démarche assez personnelle, la création dans l'art, dans les arts plastiques, hein, on est dans son atelier, on crée, et puis on marie deux créations à l'intérieur d'une même exposition. Ça demande un travail préalable, on se rend compte que ça marche, comment ça se passe?
Bon, alors déjà Katia et moi c'est une rencontre avant tout, et la rencontre elle est toute simple. On habite dans le même quartier, enfin c'est une très belle rencontre, moi je trouve. On habite dans le même quartier, on a chacune un chien, elle a un petit chien blanc, moi j'ai un petit chien noir, et puis on promène nos chiens et puis on se dit bonjour, et puis un jour on se dit un peu plus que bonjour. Ah mais en fait comment tu t'appelles? Elle, ah, Katia, Audrey.
T'aurais pas un sac à crottes?
Voilà. Voilà. Ou alors tu veux pas qu'on aille dans la petite forêt à côté, comme ça on peut papoter 5 minutes? Enfin ça commence comme ça en fait. Moi ça fait maintenant 2 ans que je connais Katia, puis on a commencé comme ça, puis un jour, puis je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu sensible entre nous. Voilà, les rencontres, c'est de l'alchimie, quoi. Et puis je lui ai proposé en fait de elle me demande ce que je fais, puis je dis moi je suis comédienne, c'est de là que je viens, du théâtre. Puis après je fais maintenant beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, mais c'est de là que je viens. Puis je dis moi je fais du travail photo, je fais beaucoup de photos maintenant. Et puis je lui dis et toi, la céramique? Je dis ah, génial, j'adore la céramique, mais tu veux pas que je te montre ce que je fais, puis tu me montres ce que tu fais? Et puis bon, il y a un peu de gêne au départ, etc. Puis finalement ben on va chez moi. Puis on habite vraiment à 3 minutes d'écart, quoi. Puis je lui montre ce que je fais. Puis elle me dit, ah, mais c'est génial. Puis je dis, mais maintenant, tu dois me montrer toi ce que tu fais. Donc elle va chercher son petit bouquin de céramique. Puis je dis, mais c'est génial ce que tu fais. Puis ça commence comme ça. Puis après, bon, ben, deux, trois choses se mettent en place. Puis un jour, il y a la possibilité d'exposer ici. Et puis en fait.
C'est la première exposition commune?
Tout à fait. Oui. Tout à fait, ouais. On a avant c'était plutôt des comment dire de se donner du réseau, quoi. De se dire ah bah tiens, tu devrais aller présenter ton travail là.
C'est vous qui l'embarquez d'ailleurs, hein, vous l'avez dit, vous êtes comédienne, vous êtes dans le monde de la culture romande depuis quelques années. Elle a travaillé dans son coin, et puis elle a pas ce réseau là, hein. Elle découvre un petit peu avec vous.
Oui, je crois. Ouais. Mais moi j'ai vraiment aimé quand j'ai découvert ce qu'elle faisait. J'ai vraiment trouvé que c'était extrêmement fort, que c'est nécessaire, et que du coup j'ai passé 2-3 coups de téléphone. C'était pas plus compliqué que ça, et j'attends absolument rien en échange de ça. C'était, je pense que son travail devait être montré, et puis il l'a été du coup, et c'était magnifique. Puis en fait c'est un hasard aussi de ensuite que la vie, ce qu'elle nous propose, c'est faut savoir saisir les choses quand elles, voilà, quand elles pointent le bout de leur nez, quoi.
Sororité, on va utiliser le mot.
Tout à fait, ouais, on peut tout à fait dire ça.
Il est bien dans l'époque. Ouais. Bon, on va parler un peu d'elle, on parlera de votre travail après. Elle a un monde assez sombre, hein, la céramique, là, pour le coup, c'est pas des plats de nouilles, hein. C'est un monde basé. Alors, il y a un espace autour de la pédophilie, avec des statuettes, des cadres, des jouets en céramique, hein, bien sûr, qui sont les témoins de l'agression d'un enfant. Monde assez brutal, hein, dans l'œuvre.
Bah, qui est son histoire. Donc elle a je vais pas prendre la parole, non, ni non, la place de Katia, mais évidemment c'est de son histoire qu'il s'agit. Et elle a travaillé avec la céramique qui est massive, monumentale. Donc il y a des pièces très très grandes, il y a des pièces beaucoup plus petites, et elle travaille sur le rapport à comment dire.
C'est dur de prendre les mots des autres.
Hein. Oui, parce que j'ai pas du tout envie ni de prendre sa place, ni de saccager ce qu'elle a dit, parce qu'elle le dirait pas comme moi, évidemment, quoi.
C'est son histoire, c'est son univers qu'elle donne, hein, qu'elle met sur le devant de la scène. Donc, a priori, les gens pourront y penser, en parler, mais en effet, on va pas le faire.
Il y a des choses très symboliques. Il y a des choses beaucoup plus littérales. En termes de fabrication d'objets là, qui sont par exemple les témoins d'abus sexuels, etc. Et je pense que c'est bien que les gens viennent découvrir, même si on comprend pas très bien ce qui se passe, ça nous parvient très bien.
Il y a en tout cas une oppression qui arrive quand on est dans la petite pièce là. Moi je l'ai ressenti avec des figures assez sombres
c'est
une chambre d'enfant.
Donc en fait l'oppression
bien que le jeu n'est pas celui qu'on souhaiterait. Bon. On vient à vous avec principalement la photographie. Hein. Là, vous avez travaillé avec des femmes. Vous allez nous expliquer un petit peu. Alors là, pour le coup, ce sont vos mots, ce sont vos œuvres. Donc, allez-y, éclatez-vous.
Alors, je présente trois projets différents. On va dire un projet qui s'appelle Série, qui a été fait sur 2 ans avec deux acolytes qui sont danseuses et moi-même. Et donc là, moi, mon dada, c'est vraiment l'identité, quoi. L'identité comme une matière, comme une matière dynamique qui est tout le temps en mouvement. Et donc c'est ça que moi j'essaie de faire dans mon travail déjà au théâtre. Puis après, c'est ce que j'ai continué à essayer de faire en images arrêtées, on va dire. Mais toutes les images arrêtées viennent tout le temps de séries. C'est parce que ça s'appelle série. C'est qu'en fait, là, je propose peut-être une trentaine d'images. En réalité, il y en a 2000. Et on va pouvoir voir une vidéo aussi. Là, il y a 2000 photos et ça fait un stop motion. Donc en fait, on est tout le temps dans l'image arrêtée, mais qui fait que d'avancer. Donc on est dans une espèce de temps, de temporalité un peu comme ça, poétique, étrange, surréaliste, qui est autre chose que la réalité qu'on va vivre là et qui on va dire qui est fluide. Donc on peut proposer quelque chose d'autre avec ça. Et donc pour moi, l'identité, c'est comme ça, c'est des pas, quoi. Pou, 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 pou. On est tout le temps dans cette avancée là, mais c'est.
Bon, c'est un mot qui, voilà, ça va de la carte d'identité à l'identité de genre aujourd'hui, hein, qui fait tant parler pour, contre, à l'école, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, on est en train de bouleverser la société. Comment vous l'envisagez, ce mot d'identité? Parce que vous travestissez beaucoup vos modèles. Hein.
Ils se travestissent tout seuls.
Oui, non, j'entends bien, mais enfin, vous les
faites. Non, mais c'est très important. Ah, bah oui.
Pour le coup, qui choisissent les costumes, qui choisissent la façon.
Il y aura une table ronde qui s'appelle Modèle, donc les mots de L et pas de Il, pour modèle. D'être un modèle pour le dessin, pour la gravure, pour tout ce qu'on veut, pour la photo. Donc moi, je travaille. Moi, en fait, avant de demander aux gens de faire quelque chose, je le fais moi, en fait. Et.
Comme modèle, c'est ça.
Ouais, depuis 2012 que je fais mes projets théâtraux au départ, il y a eu beaucoup de seuls en scène, etc. Où moi, je prends ma propre identité que moi je manipule. Et donc en fait, je n'ai pas du tout la prétention de vouloir ni de parler des autres. Donc je suis ma propre matière de travail. Et donc quand les gens voient ce que je fais, ils comprennent bien qu'ils peuvent, faire la même chose, mais que c'est pas moi qui vais les manipuler. Ils vont se manipuler tout seuls. Moi, je propose un cadre de travail. Un cadre dans lequel on vient justement travailler sur son corps, avec son corps, à partir de son corps. Et comme je disais, l'identité, c'est un gros mot, mais ça englobe, je garde ce terme, parce qu'il englobe beaucoup de choses, qui permet d'ouvrir quand même la discussion, quoi.
Mais le modèle, je rebondis sur ce mot, hein, que vous avez inventé, modèle, du coup, les modèles ont leur mot. C'est une inversion, là aussi, du rapport entre l'artiste et le modèle, hein, dont on sait que l'un est un petit peu le dictateur de l'autre, hein, prend telle position, hein, dans le meilleur des cas, dans le pire, c'est en plus du harcèlement, etc. Mais on va laisser peut-être ça de côté. C'est la prise du pouvoir du modèle, en fait.
Bah, moi, je ne sais pas, en tout cas, moi je suis à la fois interprète et modèle et metteur en scène de mes œuvres. Donc, et je travaille avec des gens à qui je propose de faire la même chose dans le cadre que je propose.
Mais ça veut dire très clairement, moi j'ai vu les photos, hein, on se grime, il y a des travestissements, il y a du maquillage. C'est le modèle qui choisit, univers.
Tout à fait, dans un cadre que, en fait, moi je propose là pour Série par exemple, et aussi pour Visage, qui est un autre projet qui est présenté là. La proposition, c'est d'avoir un grand espace là, de studio dans lequel il y a c'est la caverne d'Ali Baba, quoi. Il y a un bordel monstre. Moi je ne suis pas minimaliste, je suis maximaliste, ou je sais pas comment il faut dire. J'ai des centaines et des centaines de costumes. J'ai plein de perruques, j'ai du maquillage, j'ai des accessoires, j'ai du mobilier, j'ai toute une sorte de bordel. Et je ne peux rien jeter parce que tout peut être important, transformé, déconstruit, reconstruit, etc. Et donc là, je propose tout, j'étale tout, très bien organisé. Et il y a un studio photo avec des flashs, avec de la lumière, avec un trépied, avec voilà, tout ça est déjà préparé. Puis ensuite, le cadre de travail, c'est on va travailler, on va pas travailler sur l'identité, par exemple psychique ou sur des histoires. On va travailler sur, à partir de notre corps. Donc moi, j'invite des femmes, là en l'occurrence des femmes. J'ai pas travaillé avec des hommes, je travaille avec des femmes parce qu'il se trouve que j'ai le même corps que, enfin j'ai le même corps, je partage les mêmes attributs que d'autres femmes, et puis que c'est une matière qui m'intéresse en fait. Mon propre corps m'intéresse, de comprendre qui je suis, qui je ne suis pas, qui je pourrais être. C'est ça en fait le travail que je mène autour de l'identité.
C'est le corps qui dit qui on est ?
Non, mais en tout cas. Mais,
en partie.
Pour moi, en grande partie.
Oui.
Parce qu'on est dans une interface face à l'autre. Là, je suis face à vous, je vous regarde vous et pas quelqu'un d'autre. Voilà, et vous avez les cheveux courts, un peu gris, voilà, non, vous avez un visage plutôt, on va dire, ovale, etc., etc., ou je pourrais dire autre chose, plutôt même triangulaire, enfin, je, non, voilà, et là, vous me faites une grimace, non, je veux dire, on est toujours l'interface, on est toujours qualifié par celui qui, ou celle qui est en face de nous, ça m'intéresse beaucoup, et donc, en fait, là, ce que je propose, c'est pas que quelqu'un fasse des photos de nous, c'est de faire des photos de nous-mêmes, donc, Julie Masson, avec qui j'ai travaillé, qui est photographe, elle, pour série, qui a mis en place le studio, mais après moi je voulais qu'on prenne la pose nous-mêmes. Personne prend photo, c'est nous qui nous prenons photo, à part quand on est dans des positions complètement aberrantes où on ne peut pas appuyer sur le déclencheur, on appelle la copine qui vient prendre la photo pour nous. Mais le principe, c'est que donc le cadre, c'est il y a tous ces apparats pour la transformation, et le travail, moi je dis, moi ce qui m'intéresse dans l'identité, c'est la potentielle identité, la potentialité identitaire qui est en nous. Donc, moi, je suis en face de vous, je vous apparais comme une... Plus, je ne peux plus dire jeune femme maintenant, puisque j'ai passé la quarantaine, c'est terrible. Non, mais une femme, quoi. Une femme avec des cheveux d'une certaine couleur, des yeux d'une certaine couleur, d'une peau d'une certaine couleur, avec une énergie d'une certaine manière. Voilà, je suis quelqu'un. Mais je pourrais tout à fait être tout à fait autrement. Et donc, moi, je propose juste le décalage, la possibilité d'être autre. Tout mon travail est sur je suis ça et je pourrais tout à fait être ça, mais aussi ça, mais aussi ça, mais aussi ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça ne s'arrête jamais.
C'est intéressant, on arrive à la fin de la première partie, donc je vous fais signe pour.
C'est cet infini des potentialités qui m'intéresse.
L'infini des potentialités. Alors moi j'ai retenu un truc, c'est qu'on a la même névrose, on n'arrive rien à jeter, sauf que vous en faites quelque chose, moi pas. Bon, on va se retrouver d'ici un instant.
Je jette quand même un peu.
Bonne nuit sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Audrey Cavellius, on se retrouve. On a, je crois, bien suivi ce que vous nous racontiez de votre démarche. Quelle est la façon dont vous envisagez le regard de ceux qui voient vos œuvres ? Parce que ces propositions que vous mettez entre les mains et la décision des modèles, cette façon d'aborder l'identité que vous avez, ben il y a un troisième acteur, c'est la personne qui voit ce que vous avez fait. J'imagine que parfois elle ou il s'en ouvre à vous. Est-ce que ce dialogue-là vous intéresse ?
Alors, est-ce que je peux déjà répondre à le tout début de votre question, qui n'en était pas vraiment une au début, mais c'en est devenu une dans ma tête.
Oui.
Katia et moi, on travaille chacune de son côté en série. Et en fait, la rencontre des deux disciplines, là en tout cas, qui sont la photo ou la vidéo et la céramique, comme on a travaillé chacune en série, elle a fait toute une série de masques aussi, incroyable. Voilà, on est sur les visages, on est sur les portraits, il y a des choses qui résonnent entre les deux travaux artistiques, et ça fonctionne extrêmement bien pour moi. Mmh. Le mariage, parce que vous parliez de mariage tout à l'heure, là, le mariage artistique et aussi au niveau des matières, c'est magnifique. C'était du pain béni, quoi, de pouvoir, si j'ose dire, de pouvoir
composer, côte à côte.
On a vraiment composé, on raconte vraiment quelque chose ensemble. Et donc, oui, le troisième acteur, la troisième actrice qui arrive et qui est le spectateur, la spectatrice, c'est vrai que ça, moi, on maîtrise rien du tout, quoi.
L'œuvre, toutes les œuvres sortent des mains de l'artiste à partir du moment où elles sont montrées. Mais cette discussion-là, elle vous fait peur ?
Moi, j'aime. Après, il y a beaucoup de gens qui souvent sont un peu interloqués, quoi, face au travail.
Dépourvus, ouais, pas forcément de discours à mettre sur leurs émotions.
Non, mais souvent les gens, ils ont besoin de comprendre. Même moi, en fait, la première, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on me raconte ? On a envie de poser des questions, mais en fait, des fois, on peut être un peu trop intellectuel. Il y a beaucoup de sensations à laisser vivre et à partir avec chez soi. On comprend pas, mais il y a pas forcément quelque chose à comprendre. C'est des propositions. C'est des propositions et c'est des potentialités, donc c'est de la rêverie en fait, quoi. Il y a une grande réflexion vraiment plutôt poétique et de l'ordre de la rêverie, des possibles en fait. On est comme ceci, mais on pourrait très bien être comme cela. Rêvons à ça.
Ouais, heureusement, vous n'aurez pas affaire qu'à des gens comme moi qui vont dire « Mais vous avez voulu faire quoi ? Puis ça s'inscrit dans quoi ? Puis non, c'est dans l'histoire de l'art, c'est où ?»
Non, je pense que
ça me permet de vous poser peut-être la question quand même de l'histoire, c'est-à-dire de se mettre quelque part dans l'histoire de l'art. Alors c'est l'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui. Est-ce que pour autant vous regardez vers le passé, vous voyez la ligne du temps s'inscrire dans votre tête, dans vos réflexions sur l'art?
Bah, c'est toujours très intéressant d'avoir des amis qui aussi des amis, des collègues qui sont dans le même milieu que nous, et aussi d'en avoir qui n'en sont pas du tout, comme ça, qui ont un regard tout à fait neuf et tout à fait innocent, voire un peu radical sur ce qu'ils sont en train de regarder. Mais les amis qui viennent aussi du même milieu que nous, même si c'est un autre domaine artistique, moi j'ai des amis historiens ou historiennes de l'art, quand je leur montre quelque chose que je suis en train de faire, tout de suite eux ils ont des références, par exemple, que moi j'ai pas forcément parce que j'ai pas la même culture générale qu'eux, et eux, et souvent eux ils ont une culture quand même très spécifique parce qu'ils ont fait des études autour de ça. Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir avoir quelqu'un qui vient de dire « Ah, mais tu sais qu'un tel... »
Tu t'inscris un peu dans cette continuité. Ouais.
Il travaillait la sculpture comme ceci, comme cela. Et en fait, on n'invente rien. On est juste en train d'essayer peut-être de porter un regard sur quelque chose. Je crois que le fond est fondamentalement... pas le même, mais disons que la matière qu'on brasse, elle est quand même assez immuable. Par contre, c'est comment est-ce qu'on s'en empare et qu'est-ce qu'on en fait. Et là, alors, le fond et la forme, bah, du coup, ils se réinventent.
C'est un besoin de travailler, parce que c'est toujours étonnant, hein, pour des gens qui seront des spectatrices ou des spectateurs qui ne sont pas dans ce milieu de l'art. Et l'art pictural, l'art avec les mains, est encore différent peut-être de la littérature ou des comédiennes, des comédiens, des metteurs en scène. On a l'impression qu'il faut se coltiner avec la matière et que ça devient une sorte d'exigence, qu'on peut pas passer une journée sans écrire un paragraphe ou sans prendre une photo. Quel est votre rapport à ça?
Bon, bah,
c'est une dictature ou c'est plutôt serein?
Bah, disons que moi, après le burn-out que j'ai fait en 2019, je pense que je suis contente d'avoir des jours où je ne fais rien et que je me promène simplement avec mon chien, ou que je fais à manger, ou que je regarde des films, que je regarde même des trucs mauvais, hein, et que je me dis, mon Dieu, c'est vraiment terrible, tu perds ton temps, hein, à regarder des trucs mauvais. Mais non, je crois qu'aujourd'hui, moi j'avais une beaucoup plus grande violence envers moi-même, hein, parce qu'en fait il s'agit quand même de en tout cas en ce qui me concerne, c'était ça, de devoir chercher. Moi j'ai fait, il y a des quêtes. Moi j'étais aussi dans une quête identitaire pendant toutes ces années, je crois, jusqu'au burn-out. Ça a été un effondrement identitaire aussi, hein, le burn-out, hein. Donc c'est très intéressant, je pense que les choses n'arrivent pas par hasard. En tout cas moi j'ai été au bout de quelque chose pour comprendre qu'est-ce que je cherchais. Et puis évidemment c'est quand même mieux quand on le trouve aussi. Comme dirait l'autre, c'est bien d'être chercheur, mais il faut être trouveur, hein.
De temps en temps,
hein. Donc non, moi aujourd'hui j'aime créer, en fait. J'aime créer, et quand on trouve quelque chose qui nous anime et une réflexion qui nous anime, il y a pas vraiment d'effort, il y a de la réflexion, il y a du travail, mais ça serait magnifique qu'on pense pas à l'argent, quoi, voilà. Ça serait absolument magnifique parce qu'on, voilà, et si on avait plus de moyens, eh ben on y penserait moins, du coup, à ce qu'on a besoin, et on pourrait, avec beaucoup plus de liberté, sans doute, je crois, prendre plus de temps, en fait, pour faire les choses.
Bon, ça, c'est l'histoire de l'art. Hein. Il y avait des mécènes, il n'y en avait pas toujours. Beaucoup de gens ont été obligés de penser à l'argent pour manger, pour pouvoir produire leur art.
On est tout le temps obligés quand même de penser à ça. Après, moi, ouais, on est tout le temps obligé de penser.
Bon, on a quand même un système de mécénat.
C'est ce que j'allais dire. Public, on est quand même, on est pas mal lotis
dans nos sociétés.
En tout cas, il y a des gens qui sont plus mal lotis que d'autres. Et puis moi, en tout cas, j'ai de la chance pour ça. Mmh. Et quand il y a de l'intérêt, ben, ça fait un effet boule de neige, quoi. Les gens s'intéressent, les gens viennent, et du coup, ben, on a un peu plus de visibilité. Du coup, on peut peut-être vendre un peu plus, etc. Ce qui est d'ailleurs pas forcément mon cas, j'ai envie de dire. Mais moi, j'aime ce que je fais. Puis du coup, je suis contente de le partager. Et ça, c'est déjà tellement de bonheur, quoi, au cœur.
Vous nous avez ramené à 2019. Ce moment pour vous particulier, un burn-out. Juste après, il y a eu le Covid. J'ai souvent, quand j'ai affaire à des artistes ou à des gens de l'économie, d'ailleurs, demandé avec intérêt comment on a traversé cette période-là. C'est une période un peu foisonnante. Il n'y a plus rien de public, donc on a le temps de l'introspection, de créer d'autres choses pour plus tard. C'est un moment difficile. Quel a été votre passage?
Bah moi, je recommençais à travailler, en fait. Hein. Et je pense que j'aurais fait un deuxième burn-out. et quand tout s'est arrêté. Donc en fait, moi j'ai eu de la chance en fait. Je pense que le Covid soit arrivé à ce moment-là parce que ça m'a interdit. J'ai pas pu recommencer comme une malade parce que autrement je serais reparti comme une malade dans la création.
Il faut dire que c'était plutôt la scène hein, qui était encore un autre stress de création, votre vie d'avant.
Ouais, mais alors là j'étais passé à la photo là. Ouais. Et c'est finalement je repartais comme une folle. J'avais pas bien compris encore à ce moment-là. J'étais dans le processus de déconstruction. Enfin, je me rendais même pas compte de ça. Je voulais aller mieux en fait. Je voulais me remettre au travail. J'avais peur de plus savoir créer. J'avais peur de plus avoir d'idées. On a tout le temps peur de beaucoup de choses, hein. Et je me suis dit, il faut que tu te remettes au travail. Et j'ai rencontré, en fait, par hasard, l'artiste François Burland, avec qui j'avais déjà travaillé auparavant, 2-3 ans avant. Et puis, je lui ai dit, mais un peu comme ça, dans la rue, quoi, à l'arrache, une rencontre, encore une fois. J'ai un projet photo, mais j'ai personne avec qui le faire. Et j'ai pas envie que ce soit moi qui le fasse, parce que je suis pas capable, là. Il me faut une équipe. Et il m'a dit, ah, mais tu sais, moi, je travaille avec des jeunes qui sont formidables et qui sont souvent partants pour faire des choses. En tout cas, moi, je les emmène dans beaucoup d'aventures artistiques. Puis je dis, et puis il savait que moi, j'étais une fille quand même sérieuse et qu'on avait déjà fait quelque chose ensemble. Et il m'a dit, mais viens, si tu veux, on monte ça ensemble. Mais 2 semaines après, c'était monté. Et puis un mois après, j'avais un lieu, l'Arsenic, là où moi, je venais d'arrêter un projet, quoi. Mmh. Me proposer quand même 2 semaines de résidence. Et puis on a fait 2 semaines avec les jeunes. Et puis ça a donné lieu à une découverte photographique quand même assez géniale. Là, je commençais le stop motion, etc. Autour toujours de l'identité qui se construit, qui se déconstruit en images, etc. Le décor, grande fresque collective avec des individualités. Enfin, c'est peut-être un peu obscur ce que je dis comme ça, mais si vous venez à contre-compte, oui, vous allez comprendre que finalement, c'est pas du tout obscur. C'est juste des mots, quoi. Mais c'est voilà l'identité en mouvement, quoi. C'est un processus dynamique.
C'est plutôt. Passons la minute qui nous reste là sur les œuvres un peu. C'est très flash, hein. Les photographies, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est fond blanc, beaucoup de couleurs.
Ouais. Oui, c'est vrai que ça ressemble pas du tout à l'affiche d'ailleurs, qui est très belle aussi, mais ça n'a rien à voir avec l'affiche, hein, qui est plutôt dans la nature.
C'est le stop motion.
Les deux œuvres. Ouais. Oui, oui. Bah oui, parce qu'en fait, moi, j'aime quand ça explose, quoi. J'aime quand ça bouge, j'aime quand on est obligé d'écarquiller les yeux fort en se disant waouh, mais qu'est-ce... En fait, j'aime l'énergie, quoi. J'aime l'énergie que ça provoque, même si c'est de l'image arrêtée. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de ces images. Et puis ouais, je crois que j'aime ce qui est coloré, je crois que j'aime aussi ce qui est ludique, j'aime ce qui est aussi un peu étrange, qui vient un peu nous déranger dans ce qu'on regarde, quoi. Donc oui, beaucoup de couleurs.
Il y a des moments d'interaction avec le public, vous serez là parfois?
J'espère. Pardon,
ça dure jusqu'au 2 juin. Hein,
oui, tout à fait. Non, alors on est là, évidemment. On est là dès qu'on peut être là avec les gens. Et puis, comme si c'est un peu sur demande aussi, les jours où, comme on est dans un espace particulier qui appartient à quelqu'un qui travaille aussi, la Pierre, Julien Marolf, et donc le lieu n'est pas tout le temps ouvert parce que lui aussi travaille. Donc, du coup, on peut demander à venir, prendre rendez-vous. Puis nous, on vient volontiers, évidemment, faire une sorte de visite guidée, en tout cas des rencontres, des discussions.
Bon, un dernier mot, vous qui venez de l'extérieur, pas très loin, la région lausannoise, vous êtes à Saint-Maurice, là, le vernissage a eu lieu il y a quelques temps. Et c'est un vernissage commun à Saint-Maurice d'une demi-douzaine hein, d'entités culturelles. Vous avez vu ça ailleurs, c'est assez original, en tout cas chez nous.
Bah moi, je ne l'ai pas vu ailleurs. À part, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais Plateforme 10 à Lausanne, qui ont fait des choses en même temps.
Pour dans le même bâtiment.
Mais voilà, exactement, ouais. pour l'inauguration. Mmh. Là, on n'est pas du tout. Et moi, j'ai trouvé que c'était super, en fait. Ce concept-là, j'ai trouvé que c'était tellement plus intelligent aussi de mutualiser les intérêts, les forces, la com, de que les gens se rencontrent, le public va se déplacer.
Et mettre une image de collaboration plutôt que de concurrence, quoi.
C'est ça, parce qu'on travaille ensemble. Et puis les artistes, nous, on se déplace d'un lieu à l'autre. Donc les gens qui tiennent les lieux, bah, ils sont quand même fixes, même ils sont fixes certaines années, puis après eux aussi souvent ils bougent, à part des lieux qui appartiennent là comme ça à des gens, mais autrement les gens bougent dans les institutions, donc on est tous amenés à bouger, et ça c'est vraiment encore le cœur du projet qui est ici à contre-contre hein, d'ailleurs hein, de l'expo à fleur de peau, c'est ça, c'est on bouge, on avance, on n'est pas fixe, l'arrêt il est mort.
Bon, il faut bouger en tout cas pour venir voir cette exposition à fleur de peau. Audrey Cavelius était avec nous. Katia Zagoritis, votre complice sur cette exposition. Ça dure jusqu'au 2 juin à l'espace Contre-Contre à Saint-Maurice. Merci à vous.
Merci
beaucoup.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la Minute Hawaïenne, des produits qu'on ne peut pas trouver sur le marché. Une douche sans fil. Des chips saveur chute de cheveux. Des Birkenstock turbo-injection. De l'argent gratuit. Du jus de taupe. Des tampons hygiéniques Wi-Fi. Une chanson de Shakira qu'on aurait envie d'écouter 2 fois à la suite. C'était des produits introuvables sur le marché.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Radio Chablais, programme de nuit.
Bah. Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Le Dôme à Sion propose de merveilleuses expériences astronomiques, bien sûr, mais aussi des concerts très intimistes. Et ce samedi 20 avril, de 17h à 19h, c'est Benoît Doremus qui sera en concert. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Peut-être déjà, si vous êtes d'accord, vous présenter brièvement, musicalement parlant également.
Ouais, j'allais dire je suis un jeune chanteur, mais non, plus tant que ça, ça fait déjà 20 ans que je chante, je fais de la chanson française, comme on dit, de la chanson à texte, même si je ne sais pas ce que c'est que la chanson sans texte, mais voilà, c'est ma famille musicale, et j'ai déjà eu l'occasion de venir assez souvent en Suisse ces 20 dernières années, mais jamais à Sion, donc je me réjouis.
Ouais, alors justement, en plus, dans un cadre qui est quand même exceptionnel, alors on l'a dit, le Dôme, c'est aussi une présence assez intimiste, c'est un autre type de concert, c'est une autre relation avec le public, non ?
Oui, ça va être complètement nouveau pour moi. Tout ce que j'en sais, c'est les images que j'ai pu voir sur Internet, sur YouTube notamment, et ça a l'air absolument magnifique. Si j'ai bien compris, les spectateurs, au lieu d'avoir la tête dirigée vers la scène comme un concert classique, ils ont la tête dirigée vers les étoiles, vers le dôme, vers le ciel, vers la Voie lactée, vers l'infini et au-delà. Et donc, c'est un sacré challenge pour un chanteur, parce que face à tant de beauté, il faut que les mots et la musique soient un minimum à la hauteur, ou en tout cas s'accordent bien avec le paysage. Donc voilà, ça va être une belle expérience.
Alors justement, on imagine qu'une expérience comme celle-ci, un concept et un endroit